Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Prendre la parole comme on prend un chemin et non comme on prend la fuite. Prendre la parole pour enrichir le silence, pour lui donner chair et non pour le casser. Prendre la parole pour dire la vie, pour dire que nous sommes vivants. Prendre la parole pour dire l'audace de vivre et non pour cacher nos peurs. Prendre la parole pour accueillir l'autre et non pour l'oublier. Et puis, passer de la parole aux actes, pour combler les solitudes, pour ouvrir les chemins, pour amener la vie. Car lorsque Dieu prend la parole, c'est pour donner la vie. Car lorsque Dieu prend la parole, il donne son Fils, qui est le chemin, la vérité, la vie. Et nous, ensemble, écoutons la parole que Dieu nous donne pour être ses témoins. Dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 13. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Paul, l'apôtre de la grâce, n'a jamais proposé une grâce à bon marché. Cependant, il me semble important de dire, dès le début de cette méditation, que l'amour de Dieu est total et totalement gratuit. Il ne dépend pas de nos œuvres, de notre conduite. Dieu ne nous aime pas à cause de nos performances spirituelles. Il nous aime parce qu'il nous aime, librement, sans contrepartie, merveilleusement, mystérieusement. Nous ne pouvons payer cet amour par aucun sacrifice de valeur. Telle est bien la grâce. Un amour immérité, d'une valeur infinie, sans prix et en même temps gratuit, dans tous les sens du terme, pour tous ceux qui croient et qui en vivent. La grâce, c'est ce geste incompréhensible et immense de Dieu. L'amour est toujours sans prix. Il ne réclame rien, ni avant, ni après, ni à l'entrée, ni à la sortie. Il pose ni condition pour se manifester, ni devoir pour se maintenir. Ésaïe le disait à sa manière, « Venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. » Jésus lui-même n'a pas dit autre chose que « Venez à moi, maintenant, sans condition, sans préparation, sans purification préalable. » Et Paul, à son tour, de déclarer, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas par les œuvres. La grâce de Dieu, source de salut, est vraiment grâce. En effet, à la croix où son amour éclate et se manifeste dans toute sa grandeur, Dieu a tout donné sans rien demander. C'est cela l'amour, c'est cela la grâce de Dieu. En un mot, c'est un cadeau. Un cadeau, oui, mais qui mérite une réponse de notre part. Si cet amour est le dernier mot de Dieu, il ne peut l'être pour nous. Comme un coup de tonnerre, comme une puissante vague, la manifestation de la grâce de Dieu nous réveille, nous arrache à notre vie égoïste, nous entraîne irrésistiblement dans un autre monde. L'amour est infiniment plus exigeant que la plus rigoureuse et pointilleuse des lois. Car si le salut est par grâce, gratuit, il a été chèrement payé par Dieu lui-même. Et cela ne peut pas nous laisser insensibles. L'amour de Dieu appelle notre amour et notre amour appelle la sainteté. Certes, la grâce a de toujours été mal comprise. Et parce que certains en ont abusé, d'autres s'en méfient. Signifie-t-elle que l'on peut faire ce que l'on veut? Oui, mais lorsqu'on a été touché par la grâce, on ne peut plus vivre n'importe quoi. On a un autre cœur, d'autres désirs, d'autres besoins, d'autres intérêts, d'autres buts, d'autres richesses, un nouvel amour surtout, envahissant, qui cherche désormais à plaire à Dieu, vivre pour lui plaire. Cela nous entraîne bien au-delà de la loi, jamais en contradiction avec elle. C'est ce que veut souligner avec force l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Elle n'est pas un système religieux, une philosophie ou une science, mais une force de transformation. Elle ramène l'homme à Dieu et le restaure dans sa connaissance de Dieu, en son image de Dieu, dans son amitié de Dieu. Voilà ce qu'est le salut. Et à cette fin, la grâce nous enseigne à renoncer, à vivre et à attendre. Renoncer, vivre, attendre. Renoncer, la vie chrétienne comporte une part de renoncement. Jésus-Christ l'a dit clairement, « Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. » Il ne s'agit certes pas de mortification comme certaines religions en prescrivent. S'il y a abandon d'un certain genre de vie, cela ne signifie pas un moins dans notre existence, mais un plus. L'ancienne vie laisse place à une nouvelle, plus riche, plus pleine, plus exaltante. Paul mentionne deux éléments qui touchent à eux seuls tous les domaines de la vie. L'impiété et les désirs de ce monde. L'impie, c'est celui qui est étranger vis-à-vis de Dieu, étranger au monde de Dieu. L'impiété peut être mépris pour les choses divines. L'impiété, c'est aussi mettre quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu, cette place qui lui revient comme le Seigneur qui a tout donné pour notre amour. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, à cette vie sans Dieu. Faisons nôtre cette prière de David, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. » La grâce nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises, aux désirs de ce monde. La convoitise est un amour dévoyé, mal orienté. Notre être a été créé par Dieu pour désirer, pour aimer. Le désir est en soi une chose saine, naturelle. Nous sommes des êtres de désir, de soupir, aspirant toujours à plus grand, à plus beau, à plus profond. Mais ce mouvement, qui est le signe de l'humain, peut être envahissant au point d'absorber toutes nos forces. Ce mouvement naturel et bon peut être mal orienté et manquer son but, son vrai but. Il peut être dévoyé et se porter sur des choses mauvaises. Faisons nôtre la prière de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vivre, mais le salut que la grâce de Dieu nous donne ne se limite pas à un renoncement. Aucun renoncement ne peut s'accepter ni s'entretenir si une force, une présence, une profonde aspiration ne viennent le soutenir. C'est pourquoi la grâce de Dieu nous enseigne aussi à vivre. Vivre, la vie chrétienne, n'est pas une vie diminuée, étriquée, confiné dans un domaine spirituel, ce n'est pas une vie d'évasion dans un au-delà lumineux, mais une vie dans le temps présent, dans le monde présent, une vie pleine, pleinement vécue, épanouie, abondante, libre. La vie que nous enseigne et que produit la grâce retrouve par l'Esprit de Dieu toutes ses dimensions, toute sa mesure, toutes ses possibilités, tout son sens, sobriété, justice, piété. Ces trois attitudes que nous enseigne la grâce dessinent la vie dans ces trois dimensions, par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. La grâce de Dieu ne se contente pas de nous aider à vivre pleinement notre vie sur la terre, elle nous enseigne qu'il y a plus et mieux encore que ce que nous vivons dans le temps présent, car elle nous appelle à vivre ici et maintenant, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu est infinie, elle est parfaite, elle ne peut laisser inachever sa tâche. Elle est la source de notre salut, le seul motif d'une vie qui honore Dieu, l'espérance qui brille dans un monde désespéré. La grâce de Dieu, c'est le cœur même de Dieu.